Si tu es inscrit au mail privé d'Outils du Manager, tu sais déjà qu'en ce moment, la formation Cœur d'Outils du Manager est en promotion. Pendant une semaine, tu économises 30% sur le manager essentiel en passant commande avec le code MÉTHODE. Pour découvrir le programme, clique sur le lien du catalogue en descriptif de ton épisode. Et si tu souhaites t'inscrire au mail privé, tu trouveras également un lien en description. Bonne écoute!
Aujourd'hui, nous allons voir comment maximiser notre potentiel mental. Je suis Cédric Watine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Alors, on reçoit aujourd'hui Jérémy Coron. Jérémy est spécialiste du développement du potentiel du cerveau humain. Ça m'intéressait de l'avoir sur le podcast parce que même si le développement personnel n'est pas un domaine que nous étudions chez Outils du Manager, il est parfaitement complémentaire. En effet, à quoi bon savoir comment être un bon manager si par ailleurs vous ne savez pas mobiliser votre cerveau pour être efficace dans cette démarche? Tu verras qu'on parle aussi de domaines communs comme les chronotypes, mais aussi de choses plus spécifiques comme le sommeil et même la bonne utilisation du café. Et enfin, Jérémy nous offre un test pour déterminer notre chronotype. On en parle dans le podcast et je te mets un lien en description. Bonjour Jérémy.
Bonjour Cédric.
Est-ce que tu vas bien?
Ça va très bien toi depuis la dernière fois?
Très très bien, super super, très content de t'accueillir à nouveau sur le podcast.
On pour une troisième fois.
Ouais, c'est la troisième fois dis donc.
C'est déjà la troisième, ouais.
Ouais, ouais, on avait fait, la dernière fois c'était sur le recrutement je crois, puisque c'est un de tes anciens métiers.
Mais exactement.
Cette fois-ci, j'ai voulu t'inviter pour autre chose. J'ai voulu que tu nous parles, on avait prévu ça, de ta nouvelle activité qui maintenant m'a l'air bien en route. Alors, je ne sais pas très bien comment la définir. J'allais dire le développement personnel à la destination des cadres. Mais voilà, le développement personnel, c'est quelque chose qui est un petit peu décrié. Donc, je vais te laisser en fait définir l'activité, ce sera plus simple.
Non, c'est vrai que tu as raison, le développement personnel est assez décrié comme tu dis. Aujourd'hui, c'est de plus en plus connoté négativement.
Ouais.
Notamment qu'il y a un côté plutôt mystique. Je sais pas ce que tu en penses, mais de plus en plus, on parle de loi d'attraction, des choses comme ça qui sont assez intangibles, assez bizarres en soi.
Ouais.
Alors que moi, je suis plutôt l'inverse. Ouais, c'est de plus en plus, ça s'éloigne un peu du but de base, je trouve. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors que moi, à l'inverse, je partage uniquement des outils, des méthodes, des techniques qui sont issues des sciences et des neurosciences notamment, donc des choses réellement concrètes et tangibles. On est réellement sur une démarche qui est scientifiquement prouvée, qui, contrairement donc au développement personnel, s'appuie réellement sur des éléments, sur des études, sur des cas spécifiques. Donc effectivement, quelle est cette démarche maintenant, tu vas me demander. C'est la démarche des compétences holistiques.
Des compétences j'ai pas entendu.
Holistique.
Holistique, d'accord.
C'est ça.
Tu peux définir le terme.
Ouais, c'est un terme que j'ai créé, donc pas moi-même, en tout cas que je me suis approprié plutôt, j'ai envie de dire. À l'origine, je voulais parler des soft skills sur mon podcast. À l'origine même, donc il y a 2 ans maintenant. Mais j'ai un peu changé de domaine parce que selon moi, les soft skills étaient trop limités pour moi, toi, par rapport à ma vision des choses qui était beaucoup plus globale.
Ouais.
Et justement, cette notion holistique, alors elle vient pas de moi encore une fois, elle vient de la médecine, pour être précis, ouais. De la médecine notamment orientale et non pas occidentale, où en Orient, de façon générale, les médecins voient un problème de leur globalité. Et non pas, par exemple, t'as mal à la tête, en France, on donne un cachet pour la tête.
Ouais, en Orient, par exemple, on va plus voir l'origine et traiter à la source plutôt que traiter simplement le symptôme. C'est peut-être ça.
C'est ça, exactement.
Ça
voilà.
Okay.
Typiquement, tu peux avoir un problème au niveau de l'alimentation qui va générer ce mal de tête. En France, ça ne sera pas pris en compte, contrairement en Orient potentiellement. Et donc, c'est ce terme de globalité, d'holistisme que je me suis approprié par rapport aux compétences, car moi, justement, j'ai une mission que je me suis donnée. C'est le fait de faire comprendre à mes auditeurs, aux personnes qui me suivent, comme quoi, certes, on peut avoir des compétences, on peut être très compétent. Typiquement, toi, tu peux former des personnes au management.
Ouais.
Mais si, parallèlement à ça, on est fatigué, on manque d'énergie, on a un sommeil de mauvaise qualité, on a des trous de mémoire, on a une mauvaise cognition, forcément, la mise en application des compétences en question, que toi, tu vas enseigner par exemple, ne sera pas optimale. Les personnes ne seront pas au maximum de leur potentiel pour performer au quotidien. Et donc,
d'accord.
C'est ça la discipline que j'ai créée avec les compétences holistiques.
Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que moi, la manière dont je l'explique, moi, je fais pas du tout de. Je vais quand même appeler ça du développement personnel par facilité, mais je fais pas du tout de ce domaine-là. Même si moi, je suis client hein, de ces choses-là, puisque je suis complètement en phase avec toi sur le fait que t'as beau avoir toutes les techniques, toute l'organisation que tu as, toutes les stratégies, si toi, tu vas pas bien, même moralement, hein, pas seulement mentalement, mais aussi moralement, ça va être difficile à appliquer dans ton quotidien et les gens dont tu as la charge, les gens que tu manages, vont le ressentir aussi. Moi, une des manières, par exemple, dont je le dis un petit peu brutalement dans les podcasts, c'est si vous n'êtes pas en forme, si vous avez une sale tête, vous êtes de mauvaise humeur, etc., il vaut mieux que vous restiez travailler chez vous plutôt que de pourrir l'ambiance dans votre équipe parce que vous allez être complètement contre-productif. Mais voilà, moi je m'arrête là et toi, tu vas un peu plus loin. En fait, ça s'adresse à qui, donc, c'est-à-dire quel intérêt. En fait, moi, j'essaie toujours, quand j'invite des gens, de faire le lien entre ce que tu fais. Donc, j'ai bien compris le domaine et ça s'adresse donc à un public très très large. Mais en quoi ça peut rejoindre Outils du Manager? C'est qui ton client type aujourd'hui?
Alors, très large, oui et non, parce que moi, j'ai une cible qui est bien précise. Effectivement, tout le monde peut s'approprier, mais moi, je m'adresse principalement aux cadres et aux dirigeants. Donc, okay. Dont font partie bien évidemment les managers. Et plus précisément, dans cette niche-là, dans cette sous-niche-là, les cadres et dirigeants qui veulent réellement performer et surperformer au quotidien.
D'accord.
Parce qu'effectivement, on peut être manager et se limiter à faire son travail tranquillement sans réellement avoir cette volonté d'aller plus loin, d'optimiser ses compétences, de faire plus que les autres et mieux que les autres.
Ouais.
C'est pour ça que je me reste uniquement à cette première partie de la population que je viens de te citer.
D'accord. En fait, c'est un peu du coaching ou bien...
On est réellement sur l'optimisation, effectivement, on est sur le fait d'ajuster des curseurs à droite et à gauche pour avoir des meilleures compétences, une meilleure expression de ces compétences au quotidien.
D'accord.
On peut parler un peu de coaching, c'est parce que je pratique moi directement, j'ai des offres de coaching, mais principalement je vends des formations pour justement aller plus loin, mais ce n'est pas directement du coaching, en tout cas je ne fais pas que ça plutôt.
D'accord, c'est de l'auto-coaching en fait dont tu parles.
C'est ça, mais exactement, avec des outils, des méthodes concrètes et un suivi pas à pas, ouais.
Ok, c'est-à-dire que la personne a repéré chez elle peut-être des choses qui avaient besoin d'être améliorées au niveau de son fonctionnement personnel, qu'il soit moral, psychique ou physique, et en fonction de ça, elle regarde ce que tu proposes et elle peut se former elle-même, se développer elle-même en fait. C'est ça le principe.
C'est ça, exactement. Okay. Par rapport à un catalogue de formation assez large, la personne peut piocher dans le sommeil, par exemple, qui a un gros problème aujourd'hui dont personne n'a conscience. Mm-hmm. Le sommeil impacte réellement la qualité des performances, la qualité de l'humeur, de la cognition, du cerveau, de la santé, etc. Mm-hmm. Et si la personne remarque qu'elle est fatiguée tous les matins, qu'elle a besoin de prendre 10 cafés par jour, comme moi je l'ai vécu il y a quelques années en arrière, elle peut se dire, tiens, si j'optimisais mon sommeil dans une optique de performance, voyons ce que ça donne, et on voit les résultats concrets et tangibles, encore une fois, avec des études scientifiques derrière.
D'accord, ok. Donc, en fait, tu le sais, moi, je m'adresse principalement aux managers, mais dans mon audience, j'ai vraiment tous les types de managers. J'ai des gens qui gèrent 20 personnes, d'autres 2, je peux avoir des gens qui dirigent un salon de coiffure, ou je peux avoir des dirigeants qui dirigent 10 000 personnes. Hein. J'ai vraiment ça, hein. J'ai encore récemment interrogé, fait des sondages, et j'ai vraiment à la fois donc des gens qui sont, je dirais, très chevronnés, et j'ai aussi des débutants. Donc, et puis dans tous les secteurs, hein, c'est-à-dire que j'ai à la fois dans le privé et dans le public, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les services, enfin bref. Donc tu vois, c'est très très large. Tout ce qui les rassemble, en fait, c'est juste le fait d'avoir une équipe avec qu'elles doivent manager, qu'elles doivent développer, etc. Et qui va en tirer, j'irais, le plus de bénéfices, en fait?
Alors je dirais tout comme toi, les personnes qui passent à l'action, tout simplement.
Okay.
En fait, une personne qui se contente de consommer du contenu, comme c'est ton cas, je pense d'ailleurs de ton côté, hein, tes auditeurs qui se contentent pardon, uniquement d'écouter Outils du Manager sans appliquer, ça ne servira à rien.
Ouais.
Donc, il faut effectivement avoir une personne qui peut se remettre en question. Une personne qui peut se dire, tiens, demain, j'essaye de me fixer 8 heures de sommeil par nuit. C'est pas évident aujourd'hui, mais si on le fait, il y a des bénéfices. Il faut avoir cette capacité-là réellement à se dire, ok, peut-être que j'y crois, peut-être que j'y crois pas, mais en tous les cas, j'essaye. Et je vois si ça me correspond ou non. Réellement, c'est cette notion de passage à l'action qui est clé aujourd'hui. Donc que tu aies 20 personnes à manager, que tu en aies 200, 300, 2 personnes même, en bâtiment, en industrie ou autre, peu importe. Si tu veux réellement progresser, t'améliorer ou surperformer, comme j'aime à le dire, et que tu veux avoir cette notion véritablement d'essai, de tester, de se mettre dans les conditions nécessaires pour réussir, là, effectivement, mon contenu va t'intéresser, tout comme le tien peut intéresser ce type de personnes-là.
En fait... c'est intéressant ce que tu dis, mais moi je mets un bémol quand même. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, hein, je pense que dans les personnes qui écoutent Outils du Manager aujourd'hui, il y en a plein qui passent pas à l'action. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, et je vois bien, hein, parce que j'ai des échanges avec ces personnes-là sur le forum, ou même en direct, ou par mail, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup, en fait, qui se contentent d'écouter et qui passent pas à l'action. Donc, au début, moi, ça me frustrait. Parce qu'évidemment, ce que j'ai envie, c'est qu'ils changent. Je veux dire, ça sert à rien. Enfin, pour moi, je vois pas beaucoup d'utilité à écouter quelque chose si finalement tu te contentes d'être satisfait intellectuellement, mais que ça change pas ta vie, quoi. Mais en même temps, je pense que le fait d'écouter régulièrement Outils du Manager, finalement, ça les prépare, en fait, tu vois. Je pense que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va leur faire tilt, et ils vont se dire, ah tiens, c'est marrant, là, il est en train de parler d'un truc que moi, j'ai vécu. Et ça, ça peut être le déclencheur du passage à l'action. Et je te dirais que, parce que j'écoute ton podcast, évidemment, je te dirais que récemment, t'as dit un truc qui m'a fait tilt. Donc, ça m'a donné envie de passer à l'action sur le domaine dont tu parlais. Donc voilà, c'est perso, mais par exemple, ça pourrait être le sommeil, puisque tu évoquais ça tout à l'heure. Le fait de se regarder dans la glace et de se dire « mais j'ai une drôle de tête, aujourd'hui j'ai des cernes, etc. » Puis après tu l'oublies, tu continues ta journée, etc. Sauf que si, en écoutant le podcast, on se cite cet exemple-là et qu'on te dit « c'est pas forcément un bon signe, il y a peut-être un problème dans l'alimentation, le sommeil, le machin, etc. », ça va peut-être te faire passer à l'action quand même, quoi.
Je vois ce que tu dis, à cette notion de répétition, d'exposition et de situation potentiellement que tu as vécu qui vont t'inciter à passer à l'action. Ouais.
Ouais.
Je te rejoins finalement sur ce point-là, ouais.
Ouais, puis c'est un peu le biais de confirmation, c'est-à-dire que,
bien sûr,
je sais pas toi, mais quand tu fais ton podcast et que tu construis, tu racontes des choses, tu pars un peu de ton expérience en disant, tiens, peut-être qu'un jour vous avez expérimenté ou eu cette expérience, il s'est peut-être passé ça pour vous. Bon, il y a la moitié des gens, ça leur est jamais arrivé, mais en général, si tu fais bien ton job sur le podcast, finalement, il y a une partie qui vont se reconnaître et ceux-là, ils seront prêts à passer à l'action. Et ensuite, c'est vrai que le podcast, en général, il suffit pas pour passer à l'action. Il suffit à se convaincre qu'il faut passer à l'action, mais après, pour passer à l'action, il faut être guidé pas à pas, etc., etc.
C'est la notion de carte versus territoire, en fait. La carte va donner, donc le podcast, les grandes lignes directrices, mais c'est pas réellement la réalité des choses. Ouais. Entre une carte qui est bien dessinée, qui est plate, un vrai territoire avec des embûches, des chemins, des obstacles, là, la formation s'impose pour justement contourner tout ça.
D'accord.
Donc là, je te rejoins, effectivement, le podcast ne sert pas à passer réellement à 100% à l'action. T'as des pistes, des réflexions, des premiers outils qui se mettent en place, mais réellement, quand tu veux passer à l'action, il faut passer sur des formations ou des coachings.
D'accord. Et alors, toi, en fait, donc, le podcast, donc, clairement, je conseille le podcast, il est intéressant, on apprend des choses, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Peut-être ça va nous faire passer à l'action sur un truc ou deux pour voir si ça fonctionne. Et une fois qu'on aura vu, tiens, ouais, le conseil qu'il m'a donné, ça fonctionne, on aura besoin d'aller plus loin. C'est un peu le même principe que sur Outils du Manager, d'ailleurs.
Complètement, ouais, complètement.
Alors, tu sais que. Moi, je m'intéresse au manager et donc à sa manière de gérer son équipe, d'obtenir de la performance, de communiquer, de s'organiser. C'est un peu les domaines où je vais. Mais voilà, je vais pas côté développement personnel. Par contre, et c'est ça qui m'a donné envie de te recevoir sur le podcast, j'ai deux formations. Je crois que j'en ai parlé dans un de mes mails privés cet été. Et je crois que j'ai deux de mes formations qui parlent de ça. En tout cas, il y en a une, c'est sûr, c'est le manager essentiel. Et l'autre, c'est une des deux formations où je parle d'organisation personnelle. Je parle des chronotypes. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que j'ai découvert en lisant un bouquin. Je me suis rendu compte qu'en fait, bon, déjà, on s'en rend compte tous, on a des moments dans la journée, on a plus ou moins d'énergie, etc. Mais je me suis rendu compte que derrière, il y avait une science qui s'était développée au cours autour des chronotypes, et que quand on connaissait son chronotype, ça nous donnait vraiment des bonnes lignes d'organisation. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, certaines personnes, elles vont être plus à l'aise à être créatives, première chose dans la journée, alors que d'autres, elles vont plus être créatives, je dirais, le soir. Certains vont être plus performants en 1-1 en mettant leur 1-1 en début de journée, et d'autres en début d'après-midi, etc., etc. Et moi, j'en ai pas mal parlé parce que je trouve ça assez intéressant, et quand on a la possibilité de créer sa journée idéale, c'est pas mal, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, on peut l'optimiser. Donc moi, j'en ai parlé côté organisation, tu vois, et je me suis rendu compte que toi, t'en parler côté développement personnel. Et ça m'intéresserait qu'on parle de ça, c'est-à-dire que que déjà tu expliques un petit peu de ton côté comment tu vois les choses, pour qu'on voit si ça correspond aussi à ce que j'ai dit moi au niveau organisation en fait.
Ça marche bien sûr. Effectivement, la chronobiologie, c'est une science qui est assez récente, mine de rien, à l'échelle humaine.
Ouais.
Et c'est vrai que de prime abord, on peut croire que c'est un peu un truc mystique, comme le développement personnel de façon générale, où on dit des personnes sont plus le matin, d'autres plus le soir, c'est une volonté, etc. Mais non, c'est pas une volonté. Réellement, la chronobiologie existe au niveau scientifique. Mm-hmm. C'est-à-dire que scientifiquement parlant, des gens sont faits pour se lever tôt, et d'autres pour se lever tard et pour se coucher tard. Mm-hmm. Alors que les premiers, eux, vont se coucher tôt. Et donc, en fait, je sais pas si tu es au courant, mais on est régi tous et toutes par une horloge qui est dite l'horloge circadienne.
Mm-hmm.
C'est l'alternance entre le jour et les nuits, ça dure 24 heures.
Ouais.
Et en fait, chaque chronotype, donc toi, t'en mettais deux en avant, je crois, dans ta newsletter, si mes souvenirs sont bons, l'alouette et le hibou, c'est bien
ouais.
ça
ouais.
Moi, j'en ai quatre, personnellement. Donc, j'ai l'ours, le lion, le loup et le dauphin, je pourrais les détailler juste après si tu le veux. Et en fait, chaque chronotype va avoir sa propre horloge biologique. Et ça, au niveau du corps, ça va réellement générer, comment dire, des différences au niveau de la production de certaines hormones très importantes, notamment au niveau du sommeil et de l'énergie et de l'efficacité.
Mmh.
Donc typiquement ça va jouer sur deux hormones principales qui sont le cortisol et la mélatonine.
D'accord.
Alors le cortisol, c'est l'hormone de l'éveil, c'est l'hormone qui va donner de l'énergie, entre autres également ça provoque le stress, mais ça c'est autre chose, mais principalement ça provoque de l'énergie dans ton corps. Donc typiquement le matin au réveil, quand tu lèves tôt, tu auras un haut taux de cortisol très tôt dans la matinée.
Mmh.
Un taux qui va baisser très tôt le soir par contre, d'où l'endormissement qui est beaucoup plus tôt.
Mmh.
Et pour les personnes qui sont plus justement couche tard et lèvent tard, le pic de cortisol va intervenir beaucoup plus tard dans la matinée et va baisser beaucoup plus tard dans la soirée.
Mmh.
Donc, biologiquement parlant, ces gens sont faits pour dormir plus tôt ou dormir plus tard.
D'accord.
Également, autre hormone qui rentre en jeu, donc la mélatonine, cette fois-ci, c'est l'hormone du sommeil, cette fois-ci. Et donc, plus tu auras de mélatonine dans ton corps, plus tu vas avoir envie de dormir.
Alors, j'en ai déjà... Pardon, je t'interromps. La mélatonine,
ouais,
genre, parce que ça va peut-être parler à certains de nos auditeurs qui font des voyages à l'international. Je me souviens, moi, quand je faisais beaucoup... Que j'avais beaucoup de jet lag parce que j'intervenais dans plusieurs pays, dans une carrière précédente. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des... Alors, c'était pas en vente libre en France. Je sais pas si c'est en vente libre
des
maintenant.
Des cachets de mélatonine.
Ouais, ouais. Il y avait en particulier des cadres anglais, américains, etc., qui prenaient des cachets, en fait, pour se recaler, en fait. Et c'était des cachets de mélatonine. Je me souviens très très bien de ce nom.
Exactement, c'est ça. Et donc, c'est l'hormone du sommeil. Effectivement, on devait le prendre, je pense, tout le soir pour provoquer un sommeil plus rapidement qu'en temps normal, parce qu'avec le décalage horaire, forcément, t'es décalé au niveau des horaires. Ouais.
Ok.
Et donc, chronotype donc détermine ton heure de production de mélatonine. Donc, forcément, une personne qui va se lever tard aura une production qui sera plus tardive dans la soirée, à l'inverse d'une personne qui va se lever tôt dans la matinée.
Ouais. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'effectivement, moi, je l'ai fait sur le mode. Alors, en fait, je crois que j'ai bien mis les quatre chronotypes qui sont pas tout à fait les mêmes que les tiens. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la partie comment je construis ma journée, tu vois.
Oui.
Et donc, j'avais un test vraiment de base, hein, que j'ai trouvé dans un bouquin de Daniel Pink qui dit, je sais plus, il faut calculer à quelle heure on se couche, quelle heure on se lève, faire
c'est
la
ça.
Moyenne, etc.
Le livre Le Bon Moment, si mes souvenirs sont bons. J'ai lu aussi.
Ouais, ça s'appelle When en anglais. Moi,
ouais.
J'ai lu en anglais, donc je connais pas le titre français. Et un livre super intéressant, hein, d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Daniel Pink, When. Et donc, le bon moment en français, apparemment.
C'est ça.
Et en fait, ce qui m'a à nouveau remis le sujet en tête, c'est que j'ai découvert que toi, tu avais carrément créé un test, en fait, qu'on peut faire remplissant un questionnaire, en fait, que j'ai fait. Et d'ailleurs, qui a confirmé... Alors moi, je l'ai fait à l'envers, c'est-à-dire que je me suis... Si tu veux, moi, je travaille dans l'autre sens. C'est-à-dire que je me suis dit, bah voilà, quand j'ai une journée seule, sans contrainte, comment je l'organise, en fait ? Naturellement, je vois bien. Ma créativité, elle est plus élevée à ce moment-là. Quand il faut faire du travail, je dirais, tu sais, évacuer des tâches courantes de l'administratif, franchement, c'est-à-dire ça demande très peu de créativité. Et d'ailleurs, si t'es trop créatif, bah, tu le fais moins bien que si t'es, moi, j'appelle ça le mode robot, c'est-à-dire, tu sais, c'est vraiment, t'as une procédure que tu suis, tu prends le mail, tu fais ça, tu le mets dans une liste, tu vois, tout ce qui est gestion, etc. Moi, je sais qu'il faut que je le mette, par exemple, après le repas du midi. Enfin, voilà, j'avais repéré tout ça. Et c'est en partant de mon observation de mon comportement dans la journée que j'ai trouvé mon chronotype, en fait. Et ensuite, je me suis connecté, j'ai vu que tu avais un test que tu proposais, donc j'ai fait ton test. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis retombé sur le chronotype. C'est-à-dire que des deux côtés, en fait, ça correspondait effectivement à la façon de m'organiser quand j'avais pas de contraintes.
Ce qui est plutôt rassurant pour moi, du coup.
Attention, tu peux pas tirer de règle à partir,
oui, à partir d'une seule personne, mais beaucoup de personnes ont passé, voilà, et les retours sont assez bons en général par rapport à ça.
Et je me souviens plus d'ailleurs, je crois que je suis... Ça,
t'es un ours,
Lyon.
Non, t'es un lion.
Lion ou ours. Ouais, non, je suis ours presque... Enfin, qui tire vers le lion. C'est-à-dire que je suis pas un lève très 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 tôt, mais effectivement, j'ai mon énergie assez tôt. Enfin, bref. Est-ce que tu peux nous parler du test, peut-être?
Oui, le test. Donc, c'est pas moi qui l'ai créé pour être transparent avec toi. C'est un test que j'ai numérisé plutôt, qui est en libre accès. Qui est un test issu du livre « Quand ?» cette fois-ci. Non pas « When », mais « Quand ?» du docteur Breuce, qui est un spécialiste du sommeil et des neurosciences, qui a œuvré aux États-Unis durant des années et des années, et qui a mis en place ces quatre chronotypes et ce test-là permettant justement de découvrir quel chronotype on est, tout simplement. Et ça, comme tu l'as très bien dit, c'est super important en matière de productivité et d'efficacité. En fait, connaître son chronotype permet de savoir quand faire quoi, tu l'as très bien dit. Et en fait, quand faire quoi pour être efficace. Typiquement, moi j'ai un profil lion, quasiment comme toi, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire que mes phases de productivité vont être différentes d'un autre profil. Donc, si on se calque tous sur le même rythme au travail, forcément, les personnes vont être délaissées par rapport à ça. Les personnes vont sous-performer à cause de ça. Par contre, si on connaît bien son rythme personnel, on sait quand on a de l'énergie, quand on est créatif, quand on est fatigué à l'inverse, quand on est en mode robot, comme tu l'as dit, quand on est concentré ou autre. Et à partir de là, on peut réellement établir son propre chronoplanning, j'ai appelé ça comme ça de mon côté, pour justement performer réellement au travail et ne pas aller contre sa nature. Ne pas forcer le trait quand on est fatigué pour se forcer à faire un travail compliqué alors que ça ne sert à rien. Et c'est ça tout l'intérêt, je pense, de connaître son chronotype aujourd'hui, et le test sert à ça. C'est un test qui est assez accessible, je pense, tu vas me le confirmer, il dure à peine 5 minutes à réaliser.
Ouais.
Il est très simple à remplir, il n'y a pas de prise de tête, on coche sur des cases, et à la fin on reçoit le résultat directement par email, avec un petit PDF que j'ai créé qui explique les 4 chronotypes et leurs différences, tout simplement.
D'accord. Au niveau du coût, tu veux partager ça, cette information ?
Le test en soi, lui, il est gratuit. Le test est gratuit à 100%. Par contre, après, effectivement, pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Protocole Sommeil Optimisé, où on parle du sommeil, où on parle de comment bien gérer ses nuits, comment avoir des nuits efficaces, à la fois en termes de quantité et de qualité, et où on parle également de cette notion de chronotype plus en détail. Par contre, cette formation-là, effectivement, a un prix. Elle a 199 euros, mais je préfère un petit code, si tu veux, outil du manager, par exemple, pour voir une réduction. Tout dépend comment tu négocies ça avec moi à la fin du podcast.
Ok. Bah, en tout cas, si le test est gratuit, de toute façon,
le test est 100% gratuit.
Et puis je trouve que c'est pas mal. C'est super simple à faire. C'est amusant. D'ailleurs, je pense à ça. Je pense à ça maintenant. Moi, je l'ai fait pour moi, mais ce serait assez rigolo que je le fasse faire à mes collaborateurs, parce que c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai un de mes directeurs, clairement, on n'est pas du tout câblé pareil. C'est-à-dire que lui, le matin, il a vraiment du mal à démarrer. Et par contre, vers 17h, 18h, c'est une vraie locomotive, on l'arrête plus.
Donc c'est un profil lion, je pense, lui. Lion ou dauphin, je dirais.
Non, ouais, c'est le contraire. Lui, c'est...
Loup, je confonds, désolé. Oui.
Et donc c'est un problème, très clairement. C'est-à-dire que au moment où il commence à chauffer, moi j'en ai assez et j'ai envie d'arrêter, quoi. Donc je fais plus trop, mais avant, quand on partait en déplacement ensemble, c'était compliqué aussi. Moi, je voulais toujours me partir à l'aurore, partir de l'hôtel le plus tôt possible, voir le client le plus tôt possible pour après être plus peinard. Et lui, c'est exactement le contraire. Donc, vous pouvez vous poser la question dans votre équipe, vous devez avoir ce cas-là. Et je trouve que connaître le chronotype de ses collaborateurs, bon, il y a le test, c'est pas mal, c'est gratuit, etc. Mais on peut aussi le deviner.
On peut le deviner.
Je trouve que c'est intéressant. Et du coup, essayer de s'ajuster, c'est-à-dire que. Parce que j'ai pas terminé, mais j'ai commencé à faire ta formation protocole de sommeil
optimisé.
J'ai découvert des choses vachement intéressantes. Par exemple, rien que l'intro, les premiers moments où t'expliques comment fonctionne le sommeil. Moi, j'avais lu pas mal de trucs à droite à gauche. Je trouve que c'est une belle synthèse et on comprend bien. C'est-à-dire la première phase du sommeil. Où on va plutôt déconstruire les connexions neuronales, et puis la dernière phase du sommeil, où au contraire on va reconstruire, c'est très parlant en fait. Je trouve que tu as une qualité de pédagogique qui est intéressante.
Merci.
C'est pas compliqué, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Et alors j'ai pas vu les autres parties encore, mais ça va m'intéresser de regarder chacun de ce que tu appelles les chronoplanning, parce que du coup, ça peut permettre à un manager de regarder à quel moment, étant donné les chronotypes de son équipe, à quel moment il vaut mieux qu'il fasse, par exemple, sa réunion d'équipe.
C'est
qu'il
ça.
Soit, qui, voilà, c'est pas évident, mais je pense que ça peut être intéressant.
Et même comprendre de façon générale les comportements de ses collaborateurs. Toi, tu dis, t'es plus du matin, le soir, arrivé 17h, je pense, t'es comme moi, tu es fatigué, tu commences à en avoir marre. Forcément, si le manager sait ça à l'avance, il va pas, façon de parler, blâmer son collaborateur, il va le comprendre. Il comprendra qu'il est plus efficace ce matin, qu'il faut pas le déranger à ce moment-là, justement, parce qu'il est efficace à ce moment-là. Et qu'il faut pas imposer des réunions à cette personne à ce moment-là, justement.
En fait,
je placerais presque, moi, cette notion de chronobiologie au même niveau que le disque. Comme un outil de compréhension des personnes.
J'allais dire la même chose. C'est-à-dire, si en plus tu connais ton disque, alors là.
C'est parfait, là.
Bon, après, ça devient complexe, mais très clairement, C'est-à-dire que, en fait, le disque, c'est autre chose, C'est les modes comportementaux de la personne, mais c'est aussi ses préférences de communication, etc. Donc, et je pense que, je crois qu'il n'y a aucun lien entre le disque et le chronotype, C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais je veux dire, ce sont des informations qu'il faut connaître sur nos collaborateurs et sur nous-mêmes.
Des liens, on peut quand même tirer 2-3, je pense, mine de rien, parce que si une personne est fatiguée le soir comme toi, tu seras moins amené à communiquer efficacement avec les autres.
Oui, c'est vrai.
On peut quand même toujours tirer quelques ficelles, effectivement, c'est pas réellement des liens directs, mais des liens indirects peuvent se construire, je pense.
Ah bah, moi, ce qui se passe quand je suis fatigué, ce sont c'est ma caricature de D dominant qui sort.
Bien sûr.
Alors que pourtant, je suis influent dominant, mais si je suis fatigué, je vais vite être agacé dès qu'on me donne trop de détails, que c'est trop lent. Une réunion, par exemple, typiquement l'exemple que je disais, dont je parlais, avec ce fameux collaborateur, si on se met une réunion le soir et qu'il n'en finit pas, etc., parce que lui, justement, il se met en route, donc il est en pleine créativité, il a plein d'idées, etc., et moi, je pense qu'il y a une chose, c'est m'en aller. Donc ça va mal se passer.
Non, en plus, t'es pas concentré, t'es pas présent, t'as aucun intérêt à être là, en fait, tout simplement, mais tu pollues la réunion.
Ouais, c'est ça. Et en plus, on n'a pas les mêmes profils disques, donc je te dis pas le cocktail. Voilà, c'est le cocktail explosif. Mais voilà. Et je pense que, un petit peu comme je le dis pour le disque, il faut commencer par se connaître soi-même. Je pense que c'est vraiment la première démarche. Et donc, connaître son chronotype, je pense que c'est vachement utile. Connaître son disque aussi. Comme ça, déjà, ça te permet de toi comprendre que tu es différent des autres. Puisque tu as une référence, c'est toi, et donc tu peux positionner les autres par rapport à cette référence. Ça te permet aussi en tant que manager de leur donner ton mode d'emploi. Bon, ça je l'ai jamais fait, mais par exemple dire à mes collaborateurs, me mettez pas des réunions le soir, ça va mal se passer. Tu vois, maintenant je peux le dire plus facilement. Avec le disque, je le fais. Moi, j'explique à mes collaborateurs que s'ils m'expliquent tout dans le détail et avant de me donner la conclusion, je vais pas bien les écouter, je vais m'agacer, ils vont se vexer, etc. Que c'est mieux de me mettre la conclusion d'abord, et puis le développement ensuite. Mais je pense que c'est la première étape. Une fois qu'on se connaît bien, alors on peut bien connaître les autres, et tous les outils que tu as utilisés pour ta propre analyse et ton propre développement personnel, tu vas pouvoir les utiliser pour analyser les autres. Ça ne veut pas dire que tu vas les forcer à faire du développement personnel, ça je le déconseille totalement à quelqu'un qui a des collaborateurs, mais comprendre pourquoi un tel n'est pas performant, etc. Apprendre à reconnaître des petits symptômes chez la personne qui vont te permettre de mieux la connaître ou de mieux savoir dans quel état elle est en ce moment.
T'as fait un très bon résumé, oui. Très très bon résumé.
Voilà. Donc, excuse-moi, je prends un peu la parole, mais c'est parce que c'est
pas de
un
problème,
sujet.
T'es sur ton podcast. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi, Cédric.
Mais c'est un sujet qui m'intéresse, c'est vrai. Même si je fais pas de formation là-dessus, je suis très content de pouvoir en discuter sur le podcast. Et ça m'intéresse aussi. C'est aussi d'ailleurs d'avoir les réactions des personnes qui nous écoutent sur le forum. Ok. Est-ce que, donc tu nous as parlé un petit peu du sommeil, est-ce que tu veux en dire plus sur le sommeil ou est-ce qu'on a fait le tour à peu près du sujet ?
Il y a plein de choses super intéressantes par rapport au sommeil, je pourrais en parler pendant des heures et des heures très clairement, comme tu le sais grâce à ma formation notamment. La seule chose vraiment à avoir à l'esprit, c'est que c'est important de dormir. C'est bête, dit comme ça, mais aujourd'hui on perd du temps de sommeil, c'est terrible. Récemment, des études ont été faites, on est descendu sous la barre des 7 heures par semaine, par semaine en moyenne de sommeil, on a 6h47 je crois. Alors que pour le cerveau, pour fonctionner optimalement, pour être en bonne santé, il faut au moins 8 heures par nuit. Et le fait
alors
de.
Alors après,
ouais, dis-moi.
Il y a toujours des cas extrêmes.
Il y a des cas extrêmes, bien sûr, oui, de façon générale, je parle.
J'ai un ami, c'est 4 heures. Il peut pas dormir plus et en fait, mais voilà, c'est une mais personne que
voilà,
je connais.
Le problème,
sur...
c'est que beaucoup de personnes pensent être dans cet extrême-là, d'avoir cette compétence-là, alors qu'ils ne l'ont pas.
Exactement.
À la base. C'est ça le problème. Généralement, on se réfère à des personnes comme Jeff Bezos, comme Elon Musk, par exemple, qui dorment que très peu. Et au final, ces gens-là, ce sont les exceptions. Mais on se réfère à eux, malheureusement. Et donc, on empiète sur notre santé, sur nos performances, sur nos capacités, sur nos, notre potentiel à cause de ça. Parce qu'on ne s'écoute pas, on dit non, c'est bon, je ne suis pas fatigué, on boit du café, ça passe mieux. Et après ça, au final, on ruine sa santé, on ruine effectivement ses performances, mais on ne s'en rend pas compte, malheureusement, parce que c'est très progressif. Et c'est ça le plus gros problème aujourd'hui, je pense.
Alors, tu parles de café.
Yes.
Et il me semble que tu avais des conseils à propos du café, justement. Alors là, clairement, je pense que les managers qui nous écoutent, tous autant que vous êtes, je pense que vous êtes des gros consommateurs de café en moyenne. Il y a forcément des exceptions. D'ailleurs, ce serait marrant de faire
un
sujet sur le forum. Il me semble que tu en as fait un.
J'ai fait un topic sur ça, ouais. J'en ai fait un.
Ouais. Donc, on fera peut-être ça, tiens. Combien de tasses de café consommez-vous par jour? Très intéressant.
Ouais, je vais parler un peu du café, du coup, si tu veux. Alors, moi, j'étais effectivement un très gros consommateur. Mais vraiment très très gros, hein. J'ai dû boire jusqu'à 10 cafés par jour, je pense. Alors beaucoup de facteurs faisaient cela, mon fils ne dormait pas, grosse pression au travail et tout. Mais peu importe, j'ai eu cette phase-là où je consommais beaucoup beaucoup de café. Aujourd'hui, j'en bois plus du tout, très clairement. Alors c'est pas le but d'en boire plus du tout, je vais donner un conseil par contre qui est très intéressant, qui est très, très concret à mettre en application, c'est sur comment consommer son café efficacement. Parce que comme tu le dis, aujourd'hui tout le monde boit du café. Voilà, c'est démocratisé, c'est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Mais personne ne sait comment boire du café efficacement. Et là, on va parler d'une hormone dont je t'ai déjà parlé, qui s'appelle le cortisol, qui, comme je te l'ai dit, favorise la libération d'énergie dans le corps. Et en fait, grossièrement, on a 3 pics de cortisol par jour. Un le matin, qui survient entre 8h et 9h, un entre 12h et 13h, et un entre 17h et 18h. Ça, encore une fois, c'est une moyenne, c'est une généralité. Hein. Il y a des personnes que c'est plus tôt, d'autres c'est plus tard, mais peu importe. Et autrement dit, durant ces créneaux-là, le niveau d'énergie du corps sera déjà à son maximum. Donc boire du café au réveil, ça ne sert à rien, tout simplement.
Ah.
En fait, tout simplement, c'est comme si tu chargeais un téléphone qui est déjà à 100%. Le téléphone ne va pas passer à 110%, il restera à 100%. Donc si tu bois ton café durant tes pics de cortisol, qui sont donc entre 8h et 9h, entre 12h et 13h, entre 17h et 18h, ça ne sera pas efficace. Donc à l'inverse, si tu veux réellement avoir une bonne prise de café, une utilisation efficace et intelligente de la caféine, il faut que tu la prennes, grosso modo, à 10h et à 14h. Parce que là, tes pics, ta production est en baisse, et la caféine va avoir un effet un peu boost qui va remonter, pas ton cortisol, mais d'autres molécules chimiques dans ton corps, et qui va te redonner là de l'énergie de façon efficace, encore une fois.
D'accord.
Et après, également, je conseille d'éviter d'en consommer après 14h, parce que ça va nuire à la qualité du sommeil.
D'accord. Oui, alors que pourtant, c'est complètement pas du tout ce qu'on fait. Ce que tu dis, c'est l'inverse de ce qu'on fait.
C'est
moi, je sais que si j'ai pas le droit de boire un café en me réveillant, je vais être bizarre quand même.
J'ai eu du mal, moi aussi, au début, je te rassure. J'ai eu beaucoup
faudrait
mal.
Faudrait que je tente. Et en fait, je crois que tu disais que on a des récepteurs, en fait, dans le cerveau, c'est ça?
C'est ça, oui, exactement.
Et l'explication, c'est ça, et que plus on les sature, plus ils se multiplient, et donc moins je sais plus.
Ça, c'est la tolérance à la caféine.
Moins l'effet du café est fort.
Ça, c'est la tolérance à la caféine, effectivement. En fait, tout le monde pense que le café donne de l'énergie, c'est pas vraiment ça. En fait, le café va bloquer l'adénosine dans le cerveau. L'adénosine, c'est quoi? C'est une molécule qu'on peut comparer à un marqueur de sommeil. Plus tu as d'adénosine, donc plus tu vas faire l'activité potentiellement éreintante au niveau cognitif ou physique, plus tu vas avoir envie de dormir, plus ton cerveau va t'envoyer le signal comme quoi il est temps d'aller te reposer pour vider justement les stocks d'adénosine. Et en fait, ces molécules-là vont s'insérer sur les capteurs présents dans ton cerveau pour les détecter justement. Et en fait, la caféine va prendre la place de l'adénosine, ce qui fait que le cerveau ne va plus recevoir le message de fatigue. Et c'est comme ça que la caféine agit pour stopper la fatigue.
D'accord.
Et le cerveau, forcément, il se dit, je termine juste sur ça parce qu'on parle un peu de tolérance à la caféine. Donc en fait, le cerveau, quand il voit que ses capteurs sont, comment dire, ne fonctionnent plus, plutôt que de se dire, il y a la caféine qui m'empêche de capter l'adénosine, il se dit, mes capteurs doivent être défaillants. Et là, il en crée de nouveau. Et c'est comme ça que se crée la tolérance à la caféine.
D'accord. Et pour avoir de l'effet, du coup, tu dois boire de plus en plus de capteurs. Parce que tu as plus en plus
de
capteurs à neutraliser, en fait.
C'est ça, exactement.
Ah ouais. Donc, en réalité, le café, il ne nous donne pas plus d'énergie.
Il masque l'énergie.
Il empêche,
ouais.
Il empêche le cerveau de comprendre que là,
qu'il est fatigué.
Il est fatigué, en fait.
C'est ça.
Ah.
Exactement.
Okay.
Et c'est comme ça que je suis arrivé à boire 10 cafés par jour. Parce qu'à chaque fois, je faisais saturer mon cerveau en termes de capteurs d'adénosine.
D'accord. Ok. Et alors, on ne va pas rester sur le café toute la journée, mais depuis que tu bois plus de café, en fait, ton niveau d'énergie dans la journée, c'est-à-dire tu fais moins de choses dans ta journée, t'en fais plus, t'en fais moins, qu'est-ce qui se passe
je vais
après
beaucoup mieux depuis que je bois plus de café, pour la simple et bonne raison, parce qu'il y a un autre effet de la caféine dont on parle quasiment jamais, ça s'appelle le crash de caféine. Parce que comme je te l'ai dit, du coup, la caféine vient prendre la place de l'adénosine. Mais forcément, ouais, quand le café va s'estomper, quand l'effet de la caféine va s'estomper, toutes les molécules de caféine vont rentrer d'un coup dans ton cerveau, ce qui va te fatiguer énormément.
D'accord.
Et donc forcément, je n'ai plus cette fluctuation, on va dire, de niveau d'énergie due à ces crashs de caféine, donc je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Après, il y a plein d'autres raisons également qui font que j'ai arrêté le café, des raisons notamment au niveau de la santé. Ça, c'est un autre sujet, mais voilà, aujourd'hui, j'ai arrêté le café,
ça fait
6 mois que je n'en consomme plus, et réellement, je n'ai pas ressenti de baisse d'énergie, bien au contraire même.
D'accord. Ok. Bon. Intéressant, intéressant. Est-ce que tu as d'autres astuces, peut-être, que tu peux partager sur, dans d'autres domaines, dans le domaine dont on parle, dans le domaine de la maximisation du potentiel ?
Yes, une astuce que j'aime bien donner. Alors, c'est pas vraiment une astuce, c'est plus une compréhension du fonctionnement du cerveau. C'est un truc qui me passionne personnellement. Souvent, quand on parle de productivité, on parle de l'intérêt d'avoir un bureau rangé devant soi. Je pense que tu en parles assez souvent de ton côté, toi aussi. Avoir un bureau qui soit épuré pour pas être distrait, justement. Mais peu de personnes savent justement qu'est-ce qui fait qu'on est distrait par des éléments présents autour de nous. Et quand on comprend ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile de mettre en application les conseils qu'on nous donne. En fait, tu vois, ça remonte il y a quelques années en arrière, à l'époque de la préhistoire, tout était source de danger. Tu t'en doutes, hein, on sortait dans la savane, forcément un tigre pouvait nous tuer directement. C'est aussi simple que ça, on pouvait disparaître en quelques secondes. Ça peut être une blessure, peu importe. Et en fait, si on prend par exemple un exemple assez concret, on va prendre ton lointain ancêtre, qui faisait de la cueillette, par exemple, Cédric, pour approvisionner sa tribu.
Mm-hmm.
Quand ton ancêtre se retrouvait, par exemple, dans un environnement hostile, potentiellement hostile, il va alterner deux éléments par rapport à son cerveau. Un élément de zoom sur la cueillette pour se concentrer sur ce qu'il fait actuellement, et un élément de dézoom où il va analyser constamment l'environnement. Et en fait, ces états-là de zoom et de dézoom vont s'alterner très rapidement dans le cerveau pour, d'une part, se concentrer, d'autre part, vérifier comme quoi un danger ne va pas arriver pour justement potentiellement nous tuer.
D'accord.
Cet héritage-là, on en a hérité justement, car ça a permis à notre espèce de survivre durant des millions et des millions d'années. Et donc forcément, traduit aujourd'hui, quand tu es sur ton bureau, si tu mets plein d'objets un peu à droite et à gauche, qui vont se disperser autour de toi, tu vas inciter ton cerveau à analyser l'environnement. Même s'il n'y a plus de risques potentiels, maintenant les risques c'est quoi ? C'est ton téléphone qui sonne, ça crée une alerte, ça crée un signal visuel, ça va te distraire. Potentiellement, c'est une pile de dossiers qui traîne. Tu dis, ah tiens, ce dossier-là, je devais le faire, je ne l'ai pas fait, je vais me faire engueuler. Bim, un risque. Ce n'est pas des risques physiques, mais c'est des risques qui existent, que tu vas analyser, que ton cerveau va analyser de façon inconsciente pour toi, mais qui vont faire que tu vas perdre en productivité et en efficacité. Et le pire, c'est que ce n'est pas conscient pour toi. Tu n'en as pas l'impression, en fait. Mais pourtant, tu perds bel et bien en efficacité, en productivité à cause de ça.
Ouais, je suis d'accord. Tu as même cet effet-là. Simplement sur ton écran d'ordinateur, quand tu as plein d'icônes et de choses comme ça devant toi, sans cesse, ça capte ton regard.
Complètement.
Tu sors de ta concentration, en fait.
C'est pour ça que je me tâte maintenant à passer uniquement sur iPad pour travailler. Parce que tu as moins cette notion de distraction, tu n'as pas d'onglet, tu n'as pas de pop-up, tu n'as pas de sonnerie, tu n'as rien.
Oui, il est monotâche, l'iPad.
Ouais.
Et t'as même aussi des logiciels pour... je me souviens, avant j'écrivais avec ça, je le fais plus d'ailleurs. Un truc qui s'appelait,
Ulysse,
je crois. ER Writer.
Ah, j'ai eu aussi maintenant, je passe par Ulysse. En fait, c'est un écran effectivement qui est tout blanc, tout noir, où tu as que le texte au final.
En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on revient à une machine à écrire.
C'est terrible. Au moment, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de sonnerie. Des fois, je passe au Google Documents, comme beaucoup de personnes, sauf que là, t'as tes onglets d'ouvert, t'as tes notifs, t'as plein de trucs, et potentiellement, t'es distrait par ça, parce que tu vois potentiellement un petit 1 qui s'affiche en haut à gauche, avec ton Facebook qui clignote, et bah tiens, t'y vas. C'est naturel, t'y vas, tu veux savoir.
Et en fait, j'avais jamais fait le lien avec le cerveau archaïque.
Reptilien, oui.
Effectivement, reptilien. Moi, en fait, je m'en sers de l'exemple du cerveau reptilien aussi, quand je parle du feedback. on a toujours tendance à faire à nos collaborateurs des reproches sur ce qui va pas, parce qu'en fait, on voit plus ce qui va.
Oui.
Et en plus, notre éducation renforce ça. Hein, c'est-à-dire que à l'école, on va plus te parler de tes mauvaises notes que de tes bonnes notes, etc., etc., dans un souci positif qui est d'améliorer, parce qu'on pense que améliorer les choses, c'est enlever les choses qui vont pas. Alors que quelquefois, améliorer les choses, c'est renforcer les choses qui vont bien.
Oui.
Mais il y a aussi un lien avec ce que tu dis. Et moi, je faisais un test avant quand je faisais des conférences pour montrer ça, en fait, pour montrer que naturellement, on va voir l'anomalie dans notre environnement. Avec Laurie, on prenait une grande feuille blanche ou un grand drap blanc qu'on mettait devant les gens. Et sur ce drap ou sur cette feuille, il y avait un tout petit point rouge.
Oui.
Et on leur mettait ça sous les yeux, on leur disait « qu'est-ce que vous voyez ?» Et ils disaient « ah, le point rouge !» Et au lieu de dire « la feuille blanche », en fait. Et en fait, c'est exactement... j'avais jamais fait cette analogie avec le zoom, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va se trouver plus malin parce qu'on zoome sur ce truc-là. Et effectivement, quand t'as un gros bin sur ton bureau, bah effectivement, c'est vrai. Moi, c'est le cas, là, au moment où je te parle. J'ai un peu plein de choses sur mon bureau et effectivement, bah régulièrement, je les regarde. Et donc, le risque, c'est que je perde le fil de ce que tu me dis, que je me déconcentre, etc. Ouais, mmh. Vraiment intéressant.
Exactement. Okay. Et je pense que c'est vraiment en comprenant ces choses-là qu'on peut réellement changer les choses, tu vois. Pour moi, sans compréhension, il n'y a pas de passage à l'action possible.
Ok, je suis d'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Non, les conseils, je pense, sont déjà pas mal applicables. À part actuellement, voilà, en fait, mon podcast, moi, fonctionne. Je crois pas qu'il soit ton cas à toi, mais par mois thématique. Donc, un mois, je traite le sommeil, un mois, je traite la nutrition, un mois, je traite, par exemple, la cognition, la mémoire ou autre. Et ce mois-là, si ça peut intéresser tes auditeurs potentiellement, je traite de la prise de décision et du pourquoi, du comment le cerveau n'est pas fait pour décider efficacement.
D'accord.
Encore une fois, on rentre en compte beaucoup de notions de biais cognitifs. Tu as déjà parlé avec Olivier Cibony notamment. Beaucoup d'éléments comme ça. Il y a des stratégies pour contrecarrer ça. Et j'en parle en podcast justement durant tout ce mois d'octobre 2020, à l'heure où on enregistre.
Alors, tu sais, j'ai appris un truc hier en faisant l'interview d'une personne qui s'appelle John Rocher. Donc, au moment... je pense que ton podcast, on va le passer avant le sien. Donc, ça me permet d'annoncer le futur podcast. Et en fait, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Et il disait, à un moment, je ne sais plus pourquoi, on a parlé de la prise de décision, et il disait que le cerveau humain n'est pas capable de décider avec plus de 7 facteurs. C'est quelque chose que je ne savais pas. Et c'est un scientifique qui s'appelle, je crois, Miller. Lui parle de ça par rapport à l'intelligence artificielle. Il dit que l'intelligence artificielle, ça ne va pas vous aider à décider. Parce que c'est toujours vous qui allez décider. C'est jamais l'intelligence artificielle qui va décider à votre place. Par contre, elle va être capable de gérer un nombre considérable de données et de réduire en fait le nombre de données et du coup de vous permettre de revenir à ces 7 éléments qui vont vous permettre de prendre la décision.
Super intéressant. Ouais.
Ça sera dans le prochain podcast.
Ok. Beau teasing.
Ouais, voilà, un petit teaser qui n'était pas prévu. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Et puis voilà, j'ai plus parlé que d'habitude parce que j'ai éprouvé le besoin de croiser les choses et de rapprocher nos deux domaines parce que je pense que c'est intéressant. Effectivement, je pense qu'on a beau avoir ce que tu disais en intro, c'est très vrai. On a beau avoir toutes les techniques, avoir tout compris, etc. Si on n'est pas en forme, si on n'est pas capable de mobiliser son potentiel, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Comment on peut faire pour t'écouter ou pour te retrouver ? Comment on peut te joindre ?
Le plus simple, ça reste le podcast pour m'écouter. Très clairement, je sors un épisode tous les lundis à 7h du matin. Après, pour me joindre directement, soit en description du podcast, je laisse à la fois mon numéro de téléphone et mon email.
Ah oui, carrément ton numéro, ok.
Alors, pas mon numéro perso, je passe par un service autre ou un numéro spécifique, mais oui, je laisse mon numéro de téléphone, je suis joignable assez facilement. Et sinon, par LinkedIn. LinkedIn, j'y vais tous les jours, on peut m'ajouter, on peut m'écrire sans problème, je passe tous les jours sur LinkedIn.
Et le nom du podcast ?
Soft Skiller, donc S-O-F-T, plus loin, Skiller, donc S-K-I-L-L-E-R.
Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en description du podcast pour que vous puissiez le faire tout de suite, là, aussitôt qu'on aura terminé. Je vous donnerai un lien pour aller faire le test sur les chronotypes. Ça prend 5 minutes, c'est rigolo et en plus, c'est très utile. Donc, je le mettrai avec plaisir dans le descriptif du podcast.
Eh ben super.
On fait ça ?
On fait ça.
Je te remercie beaucoup, Jérémy.
Merci à toi, Cédric.
Je te dis à une prochaine, à une peut-être prochaine. Sur le forum, puisque tu es assez actif sur le forum. Mmh. D'ailleurs, c'est sympa. Je te remercie au passage.
De rien.
Faut pas hésiter dans la catégorie développement personnel à intervenir.
Ça
à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, j'espère que ça t'a plu. Donc, comme prévu, je te mets en descriptif le lien vers le test pour trouver ton chronotype, pour déterminer ton chronotype. Et je te mets aussi un lien pour discuter de ce podcast, un lien vers le forum. Le forum est de plus en plus actif. C'est vraiment un outil intéressant. En plus, c'est gratuit, actuellement en tout cas. Et donc, voilà, je t'invite vraiment à t'inscrire sur le forum. C'est l'outil qu'on utilise actuellement beaucoup chez Outils du Manager pour discuter, pour partager et puis aussi pour résoudre les problèmes que tu peux rencontrer en tant que manager. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne semaine.